Les affinités électives, chapitre 7. Tandis que le capitaine et Charlotte se rapprochaient toujours plus intimement, un tendre penchant entraînait Édouard vers Ottilie. Cette affection naissante lui avait fait remarquer que la belle enfant, si prévenante pour tout le monde, n'en avait pas moins trouvé le moyen de s'occuper de lui plus et autrement que des autres. Elle connaissait les mets qu'il préférait et savait, au juste, la quantité de sucre qu'il lui fallait pour une tasse de thé. Jamais elle n'oubliait de le garantir des courants d'air dont il avait une crainte exagérée, qui amenait plus d'une altercation désagréable entre lui et sa femme, car Charlotte ne trouvait jamais les appartements assez aérés. Dans les pépinières et dans les jardins, à la promenade et à la maison, partout, enfin, Ottilie prévenait les désirs d'Édouard. Semblable à un génie protecteur, elle éloignait les objets qui auraient pu lui déplaire et ne mettait jamais à sa portée que ce qu'elle savait lui être agréable. Aussi ne se sentait-il vivre qu'à ses côtés, et près de lui, la silencieuse jeune fille devenait communicative. Le caractère du baron avait conservé quelque chose d'enfantin et de naïf, parfaitement en rapport avec l'extrême jeunesse d'Ottilie. Tous deux aimaient à se rappeler l'époque où ils s'étaient vus pour la première fois et qui se rattachait aux amours de Charlotte et d'Édouard. Ottilie soutenait qu'elle les avait admirés alors, comme le plus beau couple de la ville et de la cour. Et quand son amie lui répondait qu'alors elle était encore trop enfant pour avoir pu conserver un souvenir net et clair de ce passé, elle lui racontait le fait suivant, que lui aussi n'avait point oublié. Un soir, le baron était entré brusquement chez Charlotte, et la petite Ottilie, qui se trouvait près de sa belle tante, se réfugia dans ses bras. Par enfantillage, par timidité, disait-elle. Mais son cœur ajoutait tout bas que la beauté du jeune homme l'avait si vivement émue qu'elle craignait de trahir cette émotion en s'exposant à ses regards. Tout entier à leur nouvelle relation, Édouard et son ami négligèrent la correspondance et la tenue des livres dont ils s'étaient d'abord occupés avec tant de zèle. La marche des affaires leur fit enfin comprendre la nécessité de reprendre ces travaux. Ils se donnèrent rendez-vous au bureau, où ils trouvèrent le vieux secrétaire que le défaut de direction avait fait retomber dans son ancienne apathie. Ne se sentant pas la force de travailler eux-mêmes, ils l'accablèrent de besogne, ce qui acheva de le décourager. Pour le ranimer, par leur exemple, le capitaine se mit à rédiger un mémoire sur les nouvelles réformes à faire, et Édouard se disposa à répondre à quelques-unes des lettres reçues depuis longtemps. Mais il fut si peu satisfait de sa rédaction qu'il déchira plusieurs fois ses brouillons et finit par demander l'heure à son ami. Pour la première fois depuis bien des années, le capitaine avait oublié de monter sa montre chronométrique, et tous deux sentirent que le cours des heures commençait à leur devenir indifférent. Si sous certains rapports l'activité des hommes diminuait, celle des dames semblait s'augmenter chaque jour. Lorsqu'une passion naissante ou contrariée vint se mêler aux allures habituelles d'une famille, la fermentation que cause ce nouvel élément reste toujours si longtemps imperceptible que l'on ne s'en aperçoit que lorsqu'il est trop tard pour l'arrêter. Les liens nouveaux qui commençaient à se former entre nos quatre amis produisirent d'abord les résultats les plus heureux. Les cœurs s'épanouissaient et les penchants particuliers s'annonçaient sous la forme d'une bienveillance générale. Chaque couple se sentait heureux et s'applaudissait du bonheur de l'autre. De semblables situations élèvent l'esprit, dilatent le cœur et donnent à toutes les facultés intellectuelles un vague désir de l'immense, un pressentiment de l'infini. Nos amis subirent cette loi, jusque dans les circonstances les plus insignifiantes. Ils se confinèrent beaucoup moins souvent au château et poussèrent leurs promenades beaucoup plus loin qu'à l'ordinaire. Édouard et Ottilie venaient presque toujours le devant, tantôt pour aller chercher une voiture et tantôt pour découvrir des lieux de repos inconnus. Le capitaine et Charlotte suivaient sans défiance et sans inquiétude les traces des deux aventuriers. Souvent, ils les oubliaient complètement, tant leur conversation calme et grave en apparence avait de charme pour eux. Un jour, ils dirigèrent leur promenade vers l'auberge du village, passèrent les ponts et arrivèrent auprès des étangs dont ils suivirent les bords que fermaient les collines boisées, jusqu'au point où des rochers arides les rendaient impraticables. Il paraissait impossible de pousser la promenade plus loin. Édouard, cependant, gravit la montagne avec Ottilie, car il savait que dans cette agreste solitude, il trouverait un moulin, aussi remarquable par sa situation que par l'ancienneté de sa structure. Après avoir erré pendant quelque temps au milieu de rochers couverts de mousse, il s'aperçut qu'il s'était égaré, ce qui l'inquiéta d'autant plus qu'il n'osa l'avouer à sa compagne. Heureusement, il ne tarda pas à entendre le bruit du traquet du moulin et le bruissement d'un torrent. En suivant la direction de ce bruit, ils s'avancèrent sur la pointe de roc, d'où ils aperçurent à leurs pieds, au fond d'un ravin que traversait un ruisseau rapide, une noire et antique maison de bois, ombragée par des arbres centenaires et des rochers à pic. Ottilie se décida courageusement à descendre vers cet abîme. Édouard marcha devant elle. Se retournant à chaque instant, il admirait l'équilibre gracieux avec lequel cette jeune fille se balançait, pour ainsi dire, au-dessus de sa tête. Mais dès que les pierres qui lui servaient de marche se trouvaient à des distances trop éloignées, il lui tendait la main et elle y posait la sienne. Parfois même, elle s'appuyait sur son épaule, et alors il lui semblait qu'un être céleste daignait le toucher pour se mettre en rapport avec lui. Dans son exaltation, il aurait voulu la voir chanceler, afin d'avoir un prétexte pour la recevoir dans ses bras et la presser sur son cœur. Et cependant, il n'aurait pas osé appuyer sa poitrine sur la sienne. Il aurait craint non seulement de l'offenser, mais même de la blesser. Nous ne tarderons pas à apprendre à connaître la cause de cette crainte. Arrivé enfin au moulin, il s'assit en face d'Ottilie devant une petite table sur laquelle la meunière venait de placer une jatte de lait, tandis que le meunier courait au-devant de Charlotte et du capitaine pour les amener par un sentier commode et sûr. Après avoir contemplé un instant en silence sa charmante compagne, Édouard lui dit avec un trouble visible « J'ai une grâce à vous demander, chère Ottilie, et si vous croyez devoir me la refuser, pardonnez-moi du moins de ne pas avoir eu le courage de me taire. Vous portez sur votre poitrine le portrait de votre père, homme excellent que vous avez à peine connu, et qui certes mérite une place sur votre cœur. Mais le médaillon est si grand. Je tremble quand vous prenez un enfant sur vos bras, quand la voiture penche, quand un valet passe trop près de vous, quand vous marchez sur un sentier raboteux. Si le verre venait à se briser. Cette idée me torture sans cesse. J'ai souffert horriblement tout à l'heure en vous voyant descendre les rochers. Ne bannissez pas ce portrait de votre pensée. Donnez-lui la place la plus belle dans votre chambre, au chevet de votre lit. Mais éloignez-le de votre sein. Ma crainte est exagérée peut-être, mais il m'est impossible de la surmonter. » Ottilie l'avait écouté en silence et les yeux fixés vers la terre. Dès qu'il cessa de parler, elle détacha le portrait de la chaîne qui le retenait, le pressa contre son front, leva les yeux vers le ciel plutôt que vers son ami, et lui remit le médaillon, sans hésitation et sans empressement. « Prenez-le, lui dit-elle. Vous me le rendrez quand nous serons de retour au château, ou plutôt lorsque je lui aurai trouvé une place convenable dans ma chambre. Voilà tout ce que je puis faire pour vous prouver que je sais apprécier votre bienveillance sollicitude. » Édouard n'osa appuyer ses lèvres sur le médaillon, mais il saisit la main de la jeune fille et la porta sur ses yeux. C'étaient les deux plus belles mains qui se fussent jamais unies. Il lui semblait qu'une barrière mystérieuse, qui jusque-là l'avait séparée d'elle, venait de disparaître pour toujours. Le meunier revint en ce moment, suivi de Charlotte et du capitaine. Les amis se retrouvèrent avec plaisir. On se rafraîchit en buvant du lait, on se reposa sur le gazon, et le temps s'écoula au milieu d'une douce conversation. Il fallut songer au retour. Suivre le chemin que le meunier avait fait prendre à Charlotte et au capitaine eût été trop monotone. Édouard proposa un sentier qui conduisait à travers les rochers jusque sur les bords de l'étang. On le prit sans hésiter, et tous eurent lieu d'en être satisfaits. Cette route, quoique fatigante, n'avait rien de dangereux, et offrait à chaque instant les points de vue les plus pittoresques et les plus inattendus. Ici s'étendaient des villages, des bourgs et des prairies. Là, des collines boisées s'échelonnaient avec grâce, et plus loin, une charmante métairie se cachait au milieu des arbres qui couronnait la plus haute de ces collines. Un bois touffu borna tout à coup la vue, et lorsque nos promeneurs l'eurent traversé, ils se trouvèrent, à leur grande satisfaction, sur la montagne en face du château. Et à la place où, d'après les plans du capitaine, devait bientôt s'élever une jolie maison d'été. Après une courte halte, on descendit jusqu'à la cabane de mousse, et pour la première fois, les quatre amis s'y trouvèrent réunis. La conversation roula naturellement sur les difficultés du terrain que l'on venait de parcourir. Le capitaine assura que rien n'était plus facile que d'y tracer une route commode et pittoresque. Chacun donna son opinion sur cette route, et les imaginations s'exaltèrent au point que, de la pensée du moins, on la voyait déjà finie, et l'on s'y promenait avec délices. Charlotte détruisit tout à coup ses rêves charmants en calculant la dépense qu'occasionnerait un pareil travail. « Il sera facile de lever cette difficulté, » répliqua Édouard. « La petite métairie, si pittoresquement située sur la colline, ne me rapporte presque rien. Je la vendrai, et ce capital, employé à nous procurer un plaisir de tous les jours, sera mieux placé que dans ce bien dont j'ai tant de peine à me faire payer le mince fermage. » Charlotte ne trouva plus d'objection à faire, et le capitaine proposa de vendre les terres en détail afin d'en tirer une somme plus forte. Les tracasseries inséparables d'un pareil morcellement effrayèrent Édouard, et l'on décida, d'un commun accord, que la métairie serait vendue à un bon fermier qui la désirait depuis longtemps. On savait qu'il faudrait lui accorder des termes, ce qui était facile, puisqu'on pouvait régler la marche des travaux d'après les époques du paiement. À peine nos amis furent-ils de retour au château que le capitaine étala ses plans et ses cartes sur une grande table. On les consulta afin d'harmoniser les nouveaux projets avec les anciens. Plusieurs changements étaient en effet devenus indispensables, mais la place de la maison d'été resta irrévocablement fixée sur le penchant de la montagne en face du château. Ottilie, qui ne se permettait jamais de donner son avis, avait gardé un profond silence. Le baron poussa devant elle les cartes et les plans que le capitaine ne semblait avoir étalés que pour Charlotte, et la pria si instamment et avec tant de bonté de dire sa pensée, puisque rien n'était fait encore, qu'elle se laissa entraîner. « C'est là, dit-elle en posant le bout de son doigt sur le point le plus élevé de la montagne. « Oui, c'est là que je ferai construire la maison d'été. Il est vrai qu'on n'y verrait pas le château, mais on jouirait d'un avantage réel, celui d'avoir sous ses yeux des sites nouveaux et des objets tout à fait différents de ceux que nous voyons tous les jours ici. Sur cette plateforme, la vue est vraiment admirable. J'en ai été frappée, et cependant, je n'ai fait qu'y passer. » « Elle a raison !» s'écria Édouard. « Comment cette idée ne nous est-elle pas venue ? N'est-ce pas, Ottilie ? » continua-t-il en posant à son tour le doigt sur la carte. « C'est bien là que doit s'élever la maison d'été !» Ottilie fit un signe affirmatif, et le baron traça un grand carré long au crayon sur le point indiqué. Le capitaine se sentit blessé au cœur en voyant ainsi salir sa carte si soigneusement dessinée et lavée. Il se contint cependant et eut même la générosité d'approuver l'avis d'Ottilie. « Oui, oui, » dit-il, « ce n'est pas seulement pour prendre une tasse de café ou pour manger un poisson avec plus d'appétit qu'à l'ordinaire qu'on fait de longues promenades et qu'on construit des maisons de campagne. Nous demandons de la variété et des objets nouveaux. Tes ancêtres, mon cher Édouard, ont sagement placé ce château à l'abri des vents et à la portée de toutes les choses nécessaires à la vie. Une demeure spécialement consacrée aux parties de plaisir ne saurait être mieux située que sur la plateforme qu'Ottilie vient de désigner. Nous y passerons certainement des heures fort agréables. » Édouard était triomphant. La certitude que l'idée de sa jeune amie était réellement bonne le rendait plus fier et plus heureux que s'il avait eu lui-même cette idée. Chapitre 8. Dès le lendemain matin, le capitaine visita le lieu indiqué, et il le trouva en effet le seul convenable. Dans le courant de la journée, il y conduisit ses amis. On fit et on refit des dessins, des plans et des calculs, puis on s'occupa sérieusement de la vente de la métairie. Ce fut ainsi que les deux hommes se trouvèrent jetés de nouveau dans une vie active et agitée. L'anniversaire de la naissance de Charlotte n'était pas très éloigné, et le capitaine chercha à persuader à son ami qu'il était de son devoir de célébrer ce jour en faisant poser à sa femme la première pierre de la maison d'été. Connaissant l'aversion du baron pour ces sortes de solennités, il s'était attendu à une vive opposition. Mais Édouard céda sans difficulté. Il s'était dit à lui-même qu'une fête en l'honneur de sa femme l'autoriserait à en donner une plus tard pour célébrer l'anniversaire de la naissance d'Ottilie. Tant d'entreprises projetées, qui toutes avaient déjà un commencement d'exécution, occupèrent sérieusement Charlotte. Parfois même, elles lui causèrent de graves inquiétudes, et alors elle passait une partie de ses journées à calculer les dépenses probables en les comparant à l'état de leur fortune. On se voyait peu pendant le jour, mais le soir, on se cherchait avec plus d'empressement. Pendant ce temps, Ottilie acheva de s'assurer, sans le savoir, le gouvernement absolu de la maison. Et pouvait-il en être autrement ? La nature l'avait créée pour la vie domestique. L'intérieur du ménage était son univers. Là seulement elle se sentait heureuse et libre. Le baron ne tarda pas à s'apercevoir qu'elle ne se prêtait que par complaisance aux longues excursions, et qu'elle aimait surtout à revenir le soir assez tôt pour diriger et surveiller les apprêts du souper. Toujours empressé de prévenir ses moindres désirs, il abrégea les heures de promenade et remplit les soirées par la lecture de poésies passionnées dont il augmentait le charme dangereux par la chaleur de son débit. Une convention tacite semblait avoir fixé la place que chacun des quatre amis devait occuper pendant ses lectures. Charlotte était assise sur le canapé, Ottilie en face d'elle sur une chaise, avait le capitaine à sa gauche et Édouard à sa droite. Quand il lisait, il poussait la bougie du côté de la jeune fille, qui s'approchait toujours plus près de lui et suivait les lignes des yeux, car elle aimait mieux se fier à sa vue qu'à la voix d'un autre. Loin de se fâcher, ainsi qu'il en avait l'habitude en pareille occasion, il penchait son livre vers elle, s'arrêtait quand il était arrivé à la fin de la page et attendait, pour la retourner, qu'elle l'eût averti par un regard qu'il le pouvait sans la gêner. Ce manège n'échappa ni à Charlotte ni au capitaine, qui se bornèrent à en plaisanter entre eux. L'amour qui unissait Édouard et Ottilie ne commença à les inquiéter que lorsqu'une circonstance fortuite leur en révéla tout à coup l'existence et la force. Un soir, une visite importune les avait tous mis de mauvaise humeur. Édouard proposa de chasser cette fameuse disposition en faisant de la musique, et il demanda sa flûte dont il ne s'était pas servi depuis très longtemps. Charlotte chercha les sonates qu'elle avait l'habitude d'exécuter avec son mari, mais elle ne les trouva pas, et Ottilie finit par avouer en balbutiant qu'elle les avait emportées dans sa chambre pour les étudier. « En ce cas, vous pourriez m'accompagner ?» s'écria Édouard, dont les yeux étincelèrent de joie. « Je l'espère, » répondit la jeune fille. Elle courut chercher les sonates et revint se placer au piano. Son jeu frappa le petit auditoire de surprise, presque d'admiration, car elle s'était identifiée avec les manières d'Édouard, qu'elle avait quelquefois entendu exécuter ses morceaux avec sa femme. Si Charlotte savait presser et ralentir le mouvement et se plier à toutes les imperfections musicales de son mari, par complaisance et peut-être aussi pour lui donner une preuve de la supériorité de son talent, Ottilie ne jouait que pour accompagner l'ami dont les défauts étaient devenus les siens. Elle se les était appropriés, parce que tout ce qui venait de cet ami lui était cher et lui paraissait une perfection. Les morceaux, exécutés avec cette harmonie de cœur, formaient un tout souvent très irrégulier, et si agréable pourtant, que le compositeur lui-même n'aurait pu, sans un vif plaisir, entendre son œuvre ainsi défigurée et embellie en même temps. Après ce singulier événement, Charlotte et le capitaine se regardèrent en silence, et avec le sentiment qu'on éprouve en voyant des enfants commettre certaines inconséquences qui peuvent avoir des suites fâcheuses. Cependant, on ose les leur défendre, dans la crainte de les éclairer sur des dangers qu'ils ignorent et qu'un hasard favorable peut faire disparaître, tandis qu'un avertissement direct hâte souvent la catastrophe que l'on veut prévenir et a toujours l'inconvénient de prouver l'existence d'un mal dont il ne faudrait pas même supposer la possibilité. Au reste, en lisant ainsi dans ses cœurs naïfs, Charlotte et son amie furent forcées de reconnaître qu'un penchant semblable les unissait. Chez eux, il était peut-être plus dangereux encore, car ils le prenaient au sérieux, et la nature de leur caractère les autorisait à compter l'un sur l'autre, dans toutes les éventualités possibles. Dès le lendemain, le capitaine évita de se trouver sur les lieux où s'exécutaient les travaux, à l'heure où Charlotte avait l'habitude de s'y rendre. La première fois, elle attribua son absence au hasard, puis elle devina son intention, et l'estime, l'admiration se mêlèrent à l'amour qu'il lui avait inspiré malgré lui. Si le capitaine évitait Charlotte, il cherchait à se dédommager de cette privation en s'occupant plus activement des préparatifs de la fête dont elle devait être l'héroïne. Sous prétexte de faire tirer les pierres dont il avait besoin pour la maison, il fit travailler secrètement aux deux routes qui devaient conduire à la maison en face du château, car il voulait qu'elles fussent prêtes pour la veille de cette fête. La cave de la maison d'été était creusée, et une belle pierre semblait attendre l'instant d'être posée. Cette activité mystérieuse, la résolution qu'il avait prise de vaincre son amour, le rendait silencieux et embarrassé lorsque le soir il se trouvait, pour ainsi dire, seul avec Charlotte, le baron ne s'occupant que d'Ottilie. Un soir, cependant, Édouard s'aperçut que sa femme et son ami ne s'adressaient que des monosyllabes et à des intervalles très éloignés. Attribuant leur silence à l'ennui, il les engagea à exécuter ensemble un morceau de piano et de violon. Il eût été difficile de justifier un refus. Ils choisirent une ouverture difficile qu'ils aimaient tous deux et qu'ils exécutèrent avec autant d'ensemble que de talent. L'autre couple les écouta avec satisfaction. « Ils sont plus forts que nous, chère Ottilie, » murmura le baron à l'oreille de la jeune fille. « Admirons-les et soyons heureux ensemble. » Chapitre 9. Tout avait réussi au gré des désirs du capitaine. Un mur enfermait le ruisseau, une route nouvelle traversait le village, passait à côté de l'église, se confondait avec l'ancien sentier de Charlotte, le quittait pour s'élever en serpentant, laissant la cabane de mousse à gauche, et montait doucement, et par un détour nouveau, jusqu'au haut de la montagne. Dès le matin, le château était rempli par les hôtes invités pour la fête de Charlotte. Tout le monde se rendit à l'église, où l'on trouva les habitants de la commune vêtus de leurs plus beaux habits. Le sermon terminé, le cortège se mit en marche dans l'ordre indiqué par le capitaine. Les enfants mâles, les jeunes garçons et les hommes ouvraient la marche. Les maîtres du château et leurs invités suivaient cette avant-garde. Les femmes de Charlotte, les petites filles, les jeunes villageoises et leurs mères fermaient le cortège. À un détour de la route, on arriva sur un plateau de rochers où le capitaine fit faire une courte halte à ses amis et à leurs hôtes, autant pour les reposer que pour leur faire remarquer la beauté du coup d'œil dont on jouissait de ce point de vue si adroitement ménagé. En levant les yeux vers la cime de la montagne, il voyait les hommes gravir lentement et en bon ordre vers cette cime. En laissant errer leur regard vers le fond, ils découvraient non seulement une campagne riche et fertile, mais le gracieux cortège des femmes qui montait légèrement vers eux. Un beau soleil éclairait ce tableau, et Charlotte, émue jusqu'aux larmes, pressa en silence la main de son ami. Lorsqu'on atteignit enfin la plateforme où devait s'élever la maison d'été, les hommes s'étaient déjà placés en demi-cercle autour des fossés destinés aux murs des fondements. Un maçon, en costume de fête et décoré de tous les insignes de son état, invita Charlotte et sa suite à descendre dans ces fossés. Personne ne se fit répéter cette invitation. Une belle pierre de taille était disposée de manière à être facilement posée. Le maçon, tenant le marteau d'une main et la truelle de l'autre, prononça en vers naïfs un discours dont nous ne donnons ici que le résumé en prose. Lorsqu'on veut élever un bâtiment, il ne faut jamais perdre de vue trois points principaux sans lesquels il n'y a pas de bonne construction possible. Le premier est le choix d'un emplacement convenable, le second, la solidité des fondements, le troisième, la perfection de l'exécution des détails et de l'ensemble. Le premier dépend de celui qui fait bâtir. Dans les villes, les souverains ou les autorités légales déterminent la place que doit occuper telle ou telle maison, tel ou tel édifice. À la campagne, le seigneur du canton a seul le droit de dire, sans autre considération que celle de sa volonté. C'est ici, et non ailleurs, que s'élèvera mon château ou ma maison de plaisance. Édouard et Ottilie, placés très près l'un de l'autre, n'osèrent ni se regarder ni lever les yeux sur le capitaine et sur Charlotte. dans la crainte de lire sur leurs traits que ce n'était pas le Seigneur, mais une jeune fille qui avait choisi la place de la maison d'été. Le troisième point, continua l'orateur, c'est-à-dire la perfection de l'exécution des détails et de l'ensemble, demande le concours de tous les métiers. Le second, c'est-à-dire la solidité des fondements, ne regarde que le maçon. Et ce point, une fausse modestie ne m'empêchera pas de le proclamer hautement, est le plus important. C'est un travail solennel. Aussi est-ce solennellement que nous vous invitons à le sanctionner par votre présence et par votre concours. Il s'accomplit dans les profondeurs mystérieuses que nous creusons après de longues et graves méditations. Bientôt, les nobles témoins qui tiennent de nous faire l'honneur de descendre ici avec nous pour voir poser la première pierre remonteront sur la surface de la terre. Bientôt, ils seront remplacés dans ces galeries souterraines par des pierres cimentées qui en rendront l'entrée impossible. Cette pierre fondamentale, dont les angles réguliers indiquent la régularité du bâtiment et dont la position perpendiculaire doit faire pressentir quel sera l'aplomb des murailles et l'équilibre parfait de l'ensemble de l'édifice, nous pourrions nous borner à la poser sur le sol, ainsi que toutes celles qui vont la suivre. Leur surface polie et uniforme et leur pesanteur suffiraient pour les consolider. Et cependant, nous ne leur refuserons pas la chaux qui les unira plus étroitement encore. C'est ainsi que les époux que l'amour a rapprochés deviennent inséparables quand la loi a cimenté les liens du cœur. Il est peu agréable de rester oisif au milieu de travailleurs ardents. Nous espérons donc que vous ne nous refuserez pas l'honneur de travailler avec nous. » À ces mots, il présenta à Charlotte sa truelle, remplie de chaux mêlée de sable, et lui fit signe d'étendre ce mélange sous la pierre, ce qu'elle exécuta avec autant de grâce que d'adresse. Le baron, le capitaine, Ottilie et une partie des invités se prêtèrent avec la même bonne volonté à cette cérémonie. La pierre tomba sur la couche de chaux. Le maçon présenta le marteau à Charlotte et la pria d'annoncer, par trois coups vigoureusement frappés, l'union inséparable de la pierre avec le sol qui portera la construction nouvelle. Cette formalité remplie, le maçon reprit son discours. « Le travail du maçon, dit-il, est prédestiné d'avance à passer inaperçu. La terre cache les fondements qu'il a construits avec tant de peine et tant d'intelligence. Il n'a pas même le droit de se plaindre quand le menuisier, le peintre et le sculpteur décorent ses plus hardies murailles et font oublier ainsi son œuvre en faveur des leurs. Pour lui, point de gloire, point de triomphe, de vanité. » S'il fait bien, c'est pour sa propre satisfaction. Il faut que le témoignage de sa conscience lui suffise. Il n'a pas d'autre récompense à espérer. Lorsqu'il passe près d'un palais qu'il a bâti, lui seul reconnaît son ouvrage dans les murs et les voûtes, décorées avec tant d'éclat. Si, en les construisant, il avait commis la plus légère faute, il s'écroulerait et ferait rentrer dans le néant tous ses ornements fragiles, qui, seuls cependant, attirent l'attention et obtiennent des éloges. Celui qui fait le mal à l'ombre du mystère vit dans la crainte perpétuelle qu'un événement imprévu vienne le trahir. Pourquoi celui qui fait le bien sans qu'on daigne s'en apercevoir n'espérerait-il pas qu'un jour on lui rendra justice? Les hommes qui vivront longtemps après nous fouilleront peut-être ces fondements, et alors leur solidité témoignera de notre zèle, de notre adresse et de notre mérite. Qu'ils trouvent auprès de ces pierres quelques autres témoins de notre existence, et que ces témoins soient d'une nature moins sévère et moins grave. Voyez ces boîtes de métal. Elles renferment des narrations écrites. Sur ces plaques de cuivre, on lit plus d'une inscription curieuse. Ce beau flacon de cristal contient un vin généreux, et l'on trouvera dans l'étui qui le renferme le nom de son cru, la date de l'année où il fut porté au pressoir. Ces pièces de monnaie, toutes frappées depuis peu, donneront la date de cette construction. Nous tenons tous ces objets de la libéralité du noble seigneur qui fait bâtir. Si quelques-uns des spectateurs éprouvaient le désir d'envoyer à la postérité un messager de leurs pensées, une preuve de leur passage sur la terre, il y a encore de la place près de la pierre que nous venons de poser. L'orateur se tut et regarda autour de lui. Mais, ainsi que cela arrive presque toujours en pareil cas, personne ne s'était préparé, et tout le monde garda le silence, honteux de s'être laissé surprendre ainsi. Tout à coup, un jeune officier sortit de la foule et s'écria gaiement. « Je ne laisserai pas ce dépôt mystérieux se fermer pour toujours, sans y ensevelir mon offrande. » Arrachant aussitôt un des boutons de son uniforme, il le remit au maçon. « J'espère, continua-t-il, que cet insigne belliqueux vaut bien la peine de parler un jour de nous à ceux qui n'existent pas encore. » Cette heureuse idée trouva de nombreux imitateurs. Les dames surtout se dépouillaient avec un empressement passionné de leurs flacons, de leurs bijoux, petits peignes et autres objets de toilette. Ottilie seule n'avait rien donné encore. À un signe d'Édouard, elle ôta de son cou la chaîne dont elle avait déjà détaché le portrait de son père et la posa doucement sur les autres objets jetés pêle-mêle dans un coffre solide. Le baron ferma aussitôt le couvercle, le fit cimenter et le couvrit lui-même de chaux. La cérémonie était terminée et le maçon reprit la parole d'un air grave. « En posant ces fondements, nous croyons travailler pour l'éternité, et cependant la conscience de la fragilité des choses humaines nous domine malgré tout. Le petit trésor que nous venons de renfermer dans ce coffre en est une preuve certaine. Nous pressentons qu'un jour on l'ouvrira, et pour qu'on puisse l'ouvrir, il faut qu'il soit détruit, le bâtiment qui n'est pas encore terminé. Nous le terminerons cependant. Pour nous en donner le courage, repoussons les pensées d'avenir, revenons au présent. Après la joyeuse fête de ce jour, nous reprendrons notre travail avec une ardeur nouvelle. Que les nombreux artisans qui ne peuvent exercer leur talent qu'après nous ne soient pas réduits à attendre que la maison s'élève promptement, et que bientôt, par les fenêtres qui n'existent pas encore, le maître qui fait bâtir sa noble dame et ses hôtes puissent admirer la belle et fertile contrée que l'on découvre du haut de cette montagne. Qu'ils me permettent tous de boire à leur santé. » Un de ses camarades lui présenta un grand et beau verre à pâte. Il le vida d'un trait et le lança en l'air, car en brisant le vase où l'on a bu dans un moment de joie, on prouve que cette joie était excessive et sans pareille. Les débris du verre ne retombèrent point sur la terre. On allait crier au miracle lorsqu'on découvrit la cause toute naturelle de ce singulier incident. Le côté du bâtiment opposé à celui dont l'on venait de poser la première pierre était déjà fort avancé, et les murs si hauts qu'on ne pouvait y travailler que sur des échafaudages. Et une partie des habitants de la contrée était montée sur ces échafaudages, et l'un d'eux reçut le verre que le maçon avait lancé dans cette direction. Voyant dans ce hasard un heureux pronostic pour son avenir, il montra en triomphe le verre sur lequel étaient gravées les lettres E, O, initiales des prénoms du baron, Édouard, Othon. Ce verre était un présent qu'un de ses parents lui avait fait dans sa première jeunesse, et comme il n'y attachait pas un très grand prix, il avait permis qu'on le donnât au maçon pour la cérémonie. La foule avait quitté l'échafaudage. Les invités du château, les plus jeunes et les plus lestes, s'empressèrent d'y monter. Il savait combien une belle vue dont on jouit sur le haut d'une montagne s'embellit encore quand on peut s'élever de quelques toises de plus. Ils découvrirent en effet plusieurs villages nouveaux et prétendirent qu'ils distinguaient le long sillon d'argent du fleuve qui coulait à plusieurs lieues de là. Quelques-uns furent jusqu'à soutenir qu'ils voyaient les clochers de la capitale. Lorsqu'on se tournait vers les collines boisées, derrière lesquelles s'élevait une longue chaîne de montagnes bleuâtres, on se croyait transporté dans un autre monde, car le regard se reposait avec bonheur sur la large et paisible vallée où dormaient, entre de vertes prairies, trois étangs entourés d'aunes, de platanes et de peupliers. Si ces nappes d'eau étaient réunies et formaient un seul lac, s'écria un jeune homme, ce point de vue ne laisserait plus rien à désirer. Il aurait le cachet de grandeur qui lui manque. La chose serait faisable, dit le capitaine. C'est possible, répondit vivement Édouard. Mais je m'y opposerai formellement s'il fallait sacrifier mes platanes et mes peupliers. Voyez comme ils se groupent délicieusement autour de l'étang du milieu. Tous ces beaux arbres, ajouta-t-il en se penchant à l'oreille d'Ottilie, je les ai plantés moi-même. En ce cas, ils sont encore bien jeunes. Ils ont à peu près votre âge, oui, chère Ottilie. Je plantais déjà lorsque vous n'étiez encore qu'au berceau. Un dîner splendide avait été préparé au château. Les convives y firent honneur. En sortant de table, l'on fut visiter le village, où, d'après les ordres du capitaine, chaque famille s'était réunie sur le seuil de sa demeure. Les vieillards étaient assis sur des bancs neufs et les jeunes gens se tenaient debout sous les arbres nouvellement plantés, comme si le hasard seul les eût groupés ainsi. Il était impossible de ne pas admirer la métamorphose subite qui, d'un hameau sale, pauvre et irrégulier, avait fait un village où tout respirait la propreté, l'ordre et l'aisance. Lorsque les invités se furent retirés et que nos quatre amis se retrouvèrent seuls dans la grande salle que quelques instants plus tôt une société bruyante avait encombrée, ils respirèrent plus librement. Car un petit cercle que des affections sincères ont formé souffre toujours quand une société nombreuse le force à s'étendre. Leur satisfaction, cependant, ne fut pas de longue durée. Le baron reçut une lettre qui lui annonçait de nouveaux hôtes. « Le comte arrive demain !» s'écria-t-il après avoir lu cette lettre. « En ce cas, la baronne n'est pas loin !» répondit Charlotte. « Elle arrivera 2 heures après le comte, et ils partiront ensemble après avoir passé une journée et une nuit avec nous. Il faut nous préparer de suite à les recevoir. À peine en avons-nous le temps. Qu'en penses-tu, Ottilie ? » dit Charlotte. La jeune fille demanda à sa tante quelques instructions générales sur ses intentions et s'éloigna aussitôt pour les faire exécuter. Le capitaine profita de son absence pour demander à Charlotte et à son mari quels étaient ces deux personnages qu'ils ne connaissaient que de nom. Les époux lui apprirent que le comte et la baronne, quoique mariés chacun de leur côté, n'avaient pu se voir sans s'aimer passionnément. Cet amour, qui avait troublé 2 ménages, avait causé tant de scandales que le divorce était devenu nécessaire. La baronne seule avait pu l'obtenir, et le comte s'était vu forcé de rompre avec elle, en apparence du moins, car s'il ne pouvait plus la voir en ville et à la cour, il se dédommageait de cette privation aux eaux et pendant les voyages auxquels il consacrait la plus grande partie de sa vie. Si Édouard et sa femme n'approuvaient pas entièrement cette conduite, ils ne se sentaient pas le courage de condamner des personnes avec lesquelles ils étaient liés depuis leur première jeunesse. Aussi avaient-ils conservé avec elle des relations de bonne amitié. En ce moment, cependant, Leur arrivée au château causa à Charlotte une vague inquiétude, dont sa nièce était l'objet involontaire, car elle craignait l'influence qu'un pareil exemple pourrait exercer sur l'esprit de cet enfant. Édouard aussi était peu satisfait de cette visite, mais pour des causes bien différentes. Ils auraient mieux fait de venir quelques jours plus tard, dit-il au moment où Ottilie rentrait dans la salle. Nous aurions eu au moins le temps de terminer la vente de la métairie. Le projet du contrat est rédigé, j'en ai fait une copie. Il nous en faudrait une seconde, et le vieux secrétaire est malade. Charlotte et le capitaine offrirent de faire cette copie. Mais il refusa, parce qu'il ne voulait pas, dit-il, abuser de leur complaisance. « Je me charge de ce travail !» s'écria Ottilie. « Toi ?» dit Charlotte. « Mais tu n'en finiras jamais !»« Il est vrai, » ajouta le baron, « que cet acte est fort long et qu'il me faudrait la copie après-demain matin. »«
Vous l'aurez !»
Et s'emparant du papier qu'il tenait à la main, Ottilie sortit avec précipitation. Le lendemain matin, nos amis se placèrent de bonne heure aux fenêtres du salon et leurs regards se fixèrent sur la route par laquelle le comte et la baronne devaient arriver. Bientôt, Édouard aperçut un cavalier dont les allures ne lui étaient pas inconnues. Craignant de se tromper, il pria son ami, dont la vue était meilleure que la sienne, de lui décrire le costume et la tournure de ce voyageur. Le capitaine s'empressa de lui donner ses détails, mais le baron l'interrompit et s'écria.
« C'est lui ! Oui, c'est Mittler !
Par quel hasard inexplicable permet-il à son cheval de marcher ainsi d'un pas tranquille et lent ?» C'était en effet Mittler. On l'accueillit avec une joie cordiale. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu hier ?» lui demanda le baron.
« Parce que je n'aime pas les fêtes bruyantes. J'arrive aujourd'hui pour célébrer avec vous seul, et en paix, le lendemain de l'anniversaire de la naissance de notre excellent ami. »
« Comment vous a-t-il été possible de trouver assez de temps pour nous faire ce plaisir ?» dit Édouard en riant.
« Je désire que ma visite vous soit en effet agréable. En tout cas, vous la devez à une observation que je me suis faite à moi-même ce matin. J'ai tout récemment rétabli l'harmonie dans une famille qu'un malentendu avait divisée, et j'y ai fort gaiement passé une partie de la journée d'hier. Ce matin, je me suis dit, « Tu ne partages jamais que le bonheur qui est ton ouvrage. C'est de l'égoïsme, c'est de l'orgueil. » Réjouis-toi donc aussi avec les amis dont jamais rien n'a troublé la bonne intelligence. Aussitôt dit, aussitôt fait, je savais qu'on venait de célébrer ici une fête de famille. Et me voilà.
Je conçois, dit Charlotte, qu'une société bruyante et nombreuse vous déplaise et vous fatigue. Mais j'aime à croire que vous verrez avec plaisir les amis que nous attendons aujourd'hui. Ils ne vous sont pas inconnus. Je dirais plus, ils ont déjà plus d'une fois mis votre esprit conciliant à l'épreuve. Vos efforts ont échoué contre une passion obstinée. Enfin, le comte et la baronne ne tarderont pas à arriver. » Mittler saisit son chapeau et sa cravache et s'écria avec colère. « Ma mauvaise étoile ne me laissera donc pas un instant de repos. Aussi, pourquoi suis-je sorti de mon caractère ? Pourquoi suis-je venu ici sans y avoir été appelé ? J'ai mérité d'en être chassé. Oui, je suis chassé d'ici par ces gens-là, car je ne resterai pas un seul instant sous le toit qui les abrite. Prenez garde à vous, ils portent malheur. Leur présence est un levain qui met tout en fermentation. » Charlotte chercha vainement à le calmer. Il continua avec une véhémence toujours croissante.
Celui qui, par ses paroles ou par ses actions, attaque le mariage, cette base fondamentale de toute société civilisée, de toute morale possible. Celui-là, dis-je, a affaire à moi. Si je ne puis le convaincre, le maîtriser, je n'ai plus rien à démêler avec lui. Le mariage est le premier et le dernier échelon de la civilisation. Il adoucit l'homme sauvage et fournit à l'homme civilisé des moyens nobles et grands pour pratiquer les vertus les plus difficiles. Aussi faut-il qu'il soit indissoluble, car il donne tant de bonheur général qu'on ne saurait faire attention au malheur individuel. Ce malheur, au reste, existe-t-il en effet ? Non, mille fois non. On cède à un mouvement d'impatience, on cède à un caprice et on se croit malheureux. Calmez votre impatience, domptez votre caprice et vous vous applaudirez d'avoir laissé exister ce qui doit être toujours. Il n'est point de motif assez puissant pour justifier une séparation. Le cours de la vie humaine amène avec lui tant de joie et tant de douleur qu'il est impossible de déterminer la dette que deux époux contractent l'un envers l'autre. Ce compte-là ne peut se régler que dans l'éternité. Je conviens que le mariage gêne quelquefois, et cela doit être ainsi. Ne sommes-nous pas aussi mariés avec notre conscience, qui souvent nous tourmente plus que ne pourrait le faire le plus mauvais mari ou la plus méchante femme? Et qui oserait dire hautement qu'il a divorcé avec sa conscience? Mittler aurait sans doute encore continué pendant longtemps ce discours passionné si le roulement de deux voitures et le son du corps des postillons ne lui avaient pas annoncé la visite qu'il voulait éviter. Le comte et la baronne entrèrent en effet, et en même temps, dans la cour du château, mais chacun par une porte différente. Charlotte et son mari se hâtèrent d'aller les recevoir. Mittler descendit par un escalier dérobé, traversa le jardin et se rendit au cabaret du village. Un domestique du château, à qui il en avait donné l'ordre, lui amena son cheval. Il le monta précipitamment, partit au galop et de très mauvaise humeur.